Bonjour à tous et bienvenue, c'est le 7e épisode de notre série consacrée au rock féminin, toujours autour de la table, Christophe, salut.
Bonjour.
Christophe de la Roxette et Véro.
Salut à vous.
Timo.
Et meilleur.
Et ouais, the first time I met the blues. Donc là, c'est du lourd un peu quand même,
c'est
dans
du
le sens
lourd, hein.
Sujet. On rigole pas là.
Hein. Attention.
C'est le premier volet, parce qu'il va y en avoir deux, donc la prochaine émission demain. Hein, sur la musique et la politique.
Voilà. Musique et politique, c'est vrai parce que en fait on parle depuis toutes ces émissions sur le droit des femmes en musique, la représentation féminine, etc. En Angleterre, aux États-Unis, on va parler prochainement de la France, mais il y a aussi beaucoup plus loin, il y a l'Iran. L'Iran, ce pays dont je voudrais vous parler au travers d'un film que j'ai vu et revu, que je vous invite à regarder, Les Chats Persans. Qui est un film absolument formidable sur le rock en Iran. Il faut savoir que l'Iran, c'est un pays absolument étonnant au niveau musical et culturel. Il y a plein de choses qui se passent, bien évidemment, dans les caves, parce qu'on n'a pas le droit de faire de la musique comme on veut là-bas. C'est pas facile. Donc effectivement, la liberté des femmes est encore très fragile chez nous, certes, mais vraiment, il y a des régions du monde où même prononcer ce mot, les femmes sont exposées à de graves ennuis, et les hommes également. Donc après, juste pour poser un petit peu le décor, si je puis dire, c'est après la révolution islamiste de 1979, la pop avait été carrément interdite. Donc en fait, quiconque enfreignait cette interdiction risquait d'être battu, arrêté, voire jeté directement en prison. Il reste aujourd'hui illégal, même si ça assouplit un petit peu, parce que dans les années 90, la pop et le rock est sorti vaguement de sa clandestinité, mais c'est pas la joie encore. Hein. Donc il reste toujours illégal de chanter. Pour les femmes peuvent chanter en public, mais uniquement en accompagnement, comme choriste. Donc, il n'est pas question de faire des solos, et encore avec des codes vestimentaires très stricts, des codes aussi d'attitude. Mm-hmm. Hein, au passement, tu as dansé la danse du ventre, là, parce que sinon, ouais. Directement, voilà.
Wendy Williams, ça ne peut pas aller là.
Ah non, non, non. Avec son bikini, c'est pas possible.
Et sa tronçonneuse.
Voilà. Donc, en fait, la musique reste soumise à la surveillance vraiment très, très stricte d'un organisme. Il déborde d'imagination, hein, c'est extraordinaire, d'un organisme qui s'appelle le ministère de la culture et de l'orientation islamique ou de la guidance islamique. Donc on passe 3 heures, visiblement d'après les témoignages des artistes, on passe 3 heures dans un couloir à attendre l'autorisation donc des chefs religieux pour s'entendre dire soit que c'est absolument impossible de faire un concert ou d'enregistrer ou de se produire. En fait, ils ne savent pas très bien où ils vont, mais ce qui incite du coup les musiciens à mettre leur musique sur Internet. Et c'est comme ça que, en fait, tous les jeunes de Téhéran, par exemple, arrivent à écouter de la musique quasiment en boucle sur Internet. Voilà, c'est un peu contrasté, c'est un peu paradoxal, c'est un peu comme dans tous ces régimes qui sont difficiles, en fait, pour la liberté d'expression. Il y a toujours ce paradoxe, hein, finalement, les gens aussi débordent d'imagination pour contourner le pouvoir et arriver, finalement, à s'octroyer la liberté dont ils ont envie, quoi, vraiment. Donc, du coup, ce film, Les Chats Persans, c'est un film de Baman Gobadi.
On pourra peut-être mettre les références sur
voilà.
Enfin, ou sur un site de Studio Z,
mettre,
hein,
on
y a
va
moyen.
Mettre le lien, hein, pour mettre. Alors, les références.
On sait pas encore trop dans quelle
référence, voilà.
Dans quel
nomenclature,
voilà. Voilà. Ouais. Dans quelle page, mais ça sera sur le site.
Ouais, ça sera sur le site, voilà. Comme je disais, ce film montre la richesse de la scène rock de Téhéran, clandestine, malheureusement, donc dans son propre pays. Alors dans le film, finalement, il y a deux jeunes amoureux qui nous donnent la main et nous emmènent à travers visiter les caves, les appartements insonorisés avec les moyens du bord, en passant par des fermes reculées où répètent des groupes de métal, le tout entrecoupé d'images de la vie quotidienne volées dans les rues de Téhéran, où on voit des hommes et des femmes et des enfants évoluer au travers de leur quotidien. Les acteurs musiciens donc nous servent de guide. Voilà, ils s'appellent Ashkan Enegar et je vous propose d'écouter un titre des Chats Persans qui s'intitule Human Jungle. Been there with you, believe me, out there there's a jungle. Together or alone, together or alone. People are looking for a way to survive, but we are just looking for a shortcut. Together or alone, together or alone. Nobody knows me, oh, oh. Nobody feels me. Voilà, c'était la bande originale, une des chansons de la bande originale des Chats Persans, Human Jungle, interprétée par Take It Easy Hospital. Peut-être qu'on peut passer tout de suite au deuxième morceau du même groupe, hein, qui s'appelle Me and You, groupe qui existe réellement, hein, parce que c'est un film, mais c'est à la fois un film et un documentaire. Hein, tout ce qui se passe dans ce film est réel. Voilà, ce sont des vrais musiciens. D'ailleurs, Ashkan et Negar ont obtenu leur visa et passeport et ils ont quitté l'Iran à la suite de ce film pour aller faire de la musique aux États-Unis, comme beaucoup d'Iraniens se sont retrouvés à Los Angeles où ils ont pu exprimer leur art complètement et renvoyer des fichiers MP3 à leurs copains à Téhéran pour qu'ils écoutent leur musique. Me and You, Take It Easy Hospital.
مگه با تو چه بدم که تو با ما ستمت کرد ستمت کرد من چه ایزت دلم با تو نصیب من قمت کرد قمت کرد تو زمینی و من بارون تو بهاری و من شبنم تو همیشه خنده رو باش تو بسوز ریشه یه قم بازمت مدیدم و تو ترسم شه رسیدم ولی میوه جسمت با تو دست خوما چیدم مگه با تو چه بدم که تو با ما ستمت کرد ستمت کرد مجهی تو دلم با تو نصیبه ما قمت کرد قمت کرد مگه با تو چه بدم که تو با ما ستمت کرد ستمت کرد مجید از تو دلم با تو نصیبه ما قمت کرد اگه بازمت مدیدم با تو ترسم شه رسیدم ولی میوه جسمت با تو دست خوما چیدم
Voilà, Me and You, Take It Easy Hospital. Voilà pour les Chats Persans. Je voulais simplement vous inviter, pour compléter en fait le sujet, à regarder cette fois-ci un documentaire qui s'appelle No Land Song. Kayat Najafi a réalisé sur le combat musical de sa sœur, Sarah. En fait, Sarah avait envie d'organiser un concert avec des femmes solistes et on voit tout son combat pour arriver à réaliser finalement son rêve. Voilà, sont associés au projet Jeanne Chéral, qu'on connaît plutôt bien ici, Élise Caron, et la musicienne tunisienne Emel Matlouti. Voilà, No Land Song, bah, c'est pareil, on mettra la référence sur le site de Studio Zef. Bon, bah, maintenant je vous laisse pour la petite transition avec l'autre pays dont on va parler tout à l'heure, avec un petit morceau. Bon, je vous dis pas tout de suite qui c'est.
Je vis просто святому подобным. Не ешь скоромное, потребляй скромное, и встанешь на ноги скоро. Зампрокурора, прокурор, коммунистическая партия, дружба с олигархами. Я патриот, сам из Хабаровского края. И дела решать не в какой-то там вашей Европе выбираю, а на родине, в России матушке предпочитаю. Будь смиренным, будь кротким, не заботься о тленном. Власти данной Богом, сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Отдыхать, конечно, приятнее в Греции или Ницце. Не поеду на Фарос, говорят, там перебой с электричеством. Но если кто меня спросит, иметь бизнес тут или в загранице, то тут я сторонник российских традиций. Кого надо допросим, порешаем, кирпич вовремя уроним, рыбам скормим. Кто не нужен, того похороним. Слишком резвых мы на зоне трудоустроим. За своих мы до конца стоим, понял? Ведь дружба, брат, это святое. Без проблем, брат, уголовное дело твое закрою. Тех, кто много пиздит, зарою. Кто будет выебываться, уедет под конвоем. Надеюсь, Володя, Леша Навальный и Петя Павленский тебя больше не побеспокоят. Будь смиренным, будь кротким, не заботься о тленном. Власти данной Богом, сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот. Есть, например, директор в иркутском пароходстве. С нашими интересами не имеет, сука, никакого сходства. Директор не отдает пароходы, а у Господа Бога свои заходы. Гараж, табуретка, веревка, ночь. Директору решаем нежно помочь. На погоне новая звезда, на шее стронгуляционная борода. Сын попросил на Рождество не елку, а месторождение соляное. Духовник мне сказал, что семейные ценности – это святое. Не беспокойся, сыночек, конкурентов, сыночек, мы легко успокоим. Будет тебе и кирпичное, и корабельное, и соляное. Я хозяин слова, я же говорю, что все устрою. Будь смиренным, будь кротким, подумай о тленном. Хочешь мочить и не попасться, начальству будь верным. Я люблю Россию, я патриот. И если кто меня спросит, строить или не строить Новороссию? Конечно, строить. Чем больше России, тем больше удои. Я патриот. И дела выбираю решать не в какой-то там вашей Гейропе, а на родине, в России матушке предпочитаю. И если брать, убивать, воровать... Тут я предан родине, и на родине делать это выбираю. Тут поможет прокурор Калужской области и Хабаровского края. Цапок и цапояс поддержат в Краснодарском крае. И это не то, что вам в какой-то там Швейцарии. Борьбой с коррупцией, а точнее самой коррупцией, я тут сам управляю. Я люблю Россию, я патриот. Но жил бы в Швейцарии. И если хочешь позаботиться о своем тленном, Путина, сынок, до конца будь верным. Я люблю Россию, я патриот. Будь смиренным, будь кротким, подумай о тленном. Хочешь мочить и не попасться, начальству будь верным. Я люблю Россию, я патриот.
Voilà, ben j'imagine que vous avez reconnu nos chers Pussy Riot. Je passe la parole à Melior, juste pour que tu nous rappelles comment on a parlé. En fait, elles ont fait le buzz avec un événement particulier, les Pussy Riot.
Ouais, les Russes Pussy Riot, ah, en ouais. effet. En fait, je pense qu'on se rappelle tous, on a dû voir ça dans les médias, on n'a pas pu passer au travers, c'était évident. En février, en 2012, voilà, il y a quelques années, on imagine la scène, 5 individus avec des cagoules fluorescentes, des robes, des leggings colorés, rentrent en fait dans la cathédrale du Christ Saint-Sauveur à Moscou. Les fidèles sont un peu médusés. Qu'est-ce qu'ils voient ? Un happening. Alors ces 5 jeunes femmes là, colorées, se mettent à réciter une prière un peu bizarre, une prière étrange intitulée « Sainte Marie, Mère de Dieu, chasse Poutine ». Enfin voilà, tout est dit.
Tout est dit.
Exactement. Elles veulent dénoncer à travers cette prière les liens étroits qui existent entre le pouvoir de Moscou et puis l'église orthodoxe. Alors évidemment, ça se passe pas très très bien pour elles.
Pas très bien.
Elles, sur les 5, il y en a 3 qui se font arrêter en fait. Elles sont, bon on en a entendu parler dans les médias aussi, mais elles ont été condamnées. Donc quelques mois plus tard, ça c'était au mois d'août, donc le happening c'était en février, au mois d'août elles se font arrêter, 3 se font arrêter, il y en a une qui est libérée un mois plus tard, mais les 2 autres elles passent près de 22 mois dans un camp de travail en Sibérie, voilà. Et donc en fait elles ont été libérées un petit peu avant les JO de Sochi, juste grâce à la volonté de Poutine, voilà. Il y a pas mal de prisonniers qui ont été amnistiés à à ce moment-là. Et elle, en fait, même, elle revendique ça. Elles disent, mais mince, quoi, nous, on voulait pas être libérés comme ça, juste parce que Poutine a claqué des doigts. On voulait aller jusqu'au bout de notre peine et dénoncer, en fait, cette peine injuste, quoi. Voilà ce qui s'est passé pour les Pussy Riot qui se sont fièrement opposés à Poutine.
Oui, fièrement et courageusement.
Ouais. Elles Poutine ont passé... qui était en campagne, en fait, pour les présidentielles à ce moment-là.
Oui, tout à fait.
Si on peut appeler ça des présidentielles.
De toute façon, allez, je suis Premier ministre, je suis président, je suis Premier ministre.
Il a été élu à plus de 97,8%.
Ah, voilà, c'est,
non, c'est pas
tant. Non, j'exagère.
Mais c'est vrai que c'est extrêmement courageux, c'est pour ça qu'on avait envie d'en parler ici. Avec les Pussy Riot, on pense au mouvement Riot Girl, dont on a évoqué quelques membres, voilà, avec les Bikini Kill.
Leur nom est directement lié à cette.
Exactement.
Ce courant-là, ouais.
Et à l'instar des Femen aussi aujourd'hui. Enfin voilà, toutes ces femmes qui s'opposent vraiment de manière très courageuse, je le répète, à des pouvoirs qui sont absolument totalitaires. Quoi,
ouais, hein, totalitaire.
Vraiment, c'est assez impressionnant. Les Pussy Riot racontent d'ailleurs, pour une petite parenthèse, leur passage dans les camps. Dans un article du Monde qui est daté de 2014. En fait, il faut savoir que les Pussy Riot, elles veulent vraiment une révolution féministe dans la société. Mmh. Elles ne font pas ça juste pour se montrer, parce que c'est vrai que les critiques sont souvent sur le même mode. C'est-à-dire, on peut se poser la question à quoi ça sert d'aller à moitié à poil, là, comme ça, montrer ses nibards avec des trucs, des inscriptions sur le corps, etc. Mais le fait est que si elles utilisent les médias, pourquoi pas ? Je veux dire, elles font parler d'elles, ça discute. C'est-à-dire que ce sont des happenings qui ouvre le débat, on est obligé d'en parler. Bon, voilà, après, on trouve ça bien, on trouve ça mal. Je ne sais pas si la question est vraiment là. Je ne suis pas sûre. La Russie, en fait, n'a pas eu de Sex Pistols. Et c'est vrai, elle ignore finalement, visiblement, d'après les témoignages, ignore l'art de la performance. Alors, c'est vrai que c'est complètement révolutionnaire, c'est le cas de le dire. Et du coup, avec cette histoire de happening dans cette église, la Russie est vraiment partagée. Poutine a fait son grand seigneur en les libérant. Bien sûr que ça allait lui servir. Mais dans l'opinion publique russe, les gens sont vraiment partagés parce que c'est complètement nouveau. Dans la population russe, il y a énormément de gens qui ont envie que ça bouge, évidemment encore chez les jeunes, bien évidemment chez les femmes, qui ont envie que ça bouge. Et ça, c'est, enfin, nous, de notre côté, on voit un peu ça avec des lunettes qui, je pense, sont déformées. Voilà. Donc, encore une fois, je vous invite, il y a des documentaires sur les Pussy Riot, je vous invite à aller voir ça, c'est disponible sur YouTube. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci, c'est. Il y a de quoi se documenter. Après Chaïka, dont on a écouté un morceau en début d'émission, on va écouter Don't Cry Genocide des Pussy Riot. Et Genocide des Pussy Riot. Juste pour info, à ma connaissance, elles ont sorti un album en 2012 chez Protest Records qui s'appelle Kill the Sexist.
Très bien. Donc elles ont sorti un disque l'année où elles sont sorties des geôles moscovites.
Mais elles ne chôment pas, jamais.
Ah ouais.
Bah, peut-être tout le temps au front.
Tu crois qu'elles avaient enregistré
pendant
leur emprisonnement? Bon, alors.
Non, pendant leur emprisonnement, elles faisaient de la couture, visiblement, dans les camps de travail.
Voilà. Ouais.
Ça devait être sympa à voir ce qu'elle faisait, ouais, certainement.
J'ai des nouvelles cagoules.
Ouais.
Bon, ça vous dit d'écouter quelques petites chroniques de notre ami Ben ?
On va y aller.
Allez,
on lui laisse la parole.
Vas-y, Ben.
Les filles, vous êtes toujours avec nous ? Toujours en compagnie de Peggy ? Peggy, elle est un peu stressée, là. Peggy, on va parler des poils. Et Peggy, bah, fait très attention à son apparence. Donc, Peggy, bah, très souvent, ses poils, ben, elle fait donc attention. Donc, on va parler des poils avec Peggy. Donc, alors, le poil. Alors, ce petit frisé ou ce grand brun différencie les petites filles des grandes. Pourtant, pour être une femme, une vraie, une qui prend soin d'elle, il faudrait le couper, l'extraire, le triturer, l'atomiser. Lutter contre la nature jusqu'à ce que ce petit frisé ou ce grand brun revienne au galop. Et recommencer. Ce n'est pas une convention sociale, juste du dégoût, vous dit l'esthéticienne en tirant d'un grand coup sur la bande de cire. Un dégoût aussi généralisé, ce ne serait-ce pas un tout petit peu de convention sociale, non ? Si on ne peut pas aimer le sexe féminin sans aimer les poils, comme le dit Eve Hensler dans les monologues du vagin, de quoi le poil est-il l'incarnation ? En premier lieu, celui d'une colossale norme sociale, déguisée en choix esthétique ou en geste d'hygiène. En 2006, le psychologue Jocelyne Patinel réalisait une enquête auprès d'un panel de jeunes femmes françaises. L'aspect normatif de l'épilation était chez la plupart d'entre elles nié. Pourtant, si une grosse majorité prescrivait une épilation régulière des aisselles et des jambes, 37% la prescrivaient uniquement pour les moments où ces deux parties du corps étaient visibles. Comment parler d'un geste d'hygiène si ce n'est pas le poil qui est considéré comme sale, mais le fait de le montrer? C'est donc bien le regard social sur le poil qui justifie notre implication à dépenser du temps, du fric et de l'énergie pour l'exterminer de la surface de l'épiderme, docilement. 80% des femmes estiment qu'il est important de s'épiler pour être séduisante. L'épilation est donc intimement liée à l'attirance physique et à la sexualité. Une obligation même pour les 81% de femmes célibataires qui s'épilent automatiquement avant un rendez-vous et 61% qui préfèrent passer à côté quand elles ne sont pas épilées. Une bonne partie des femmes est donc prête à se sanctionner elles-mêmes si elle a fait l'impasse sur la chasse aux poils. La sanction s'applique aussi aux autres femmes. Face à une semblable non épilée, un tiers des femmes déclarent qu'elle lui infligerait une forme de sanction sociale, un regard désapprobateur, une remarque négative, un commentaire désobligeant. Le choix de se débarrasser de ses poils ne semble plus être un dé que l'on regarde bien en face, le courage qu'il faut pour s'en départir. En réalité, laisser ses poils tranquilles quand on ne vit pas dans une grotte et qu'on n'y exerce pas sa profession en télétravail demande un courage faramineux. En ce sens, le poil est un sujet éminemment féministe, catalysant les difficultés pour les femmes à s'extirper d'une norme tellement puissante qu'elles trompent leur libre arbitre. Voilà qui explique, en partie, le très tenace stéréotype de la féministe velue. Pourtant, croyez-le ou non, une féministe fait exactement ce qu'elle veut de son corps. En matière de duvet comme ailleurs, simplement, elle ne se raconte pas de salade et ne sanctionne pas celles qui font des choix différents des siens. Toujours là les filles, toujours en compagnie de Peggy. Peggy, le coup de cœur de Peggy. Cette information est donc mon coup de cœur par la même occasion. Donc le coup de cœur, il va pour Patsy. Et donc Patsy, ben, c'est les années 1960. Donc c'est Patsy, c'est une hippie, une idéaliste, comme il y en avait beaucoup à cette époque. Hein. Patricia, son vrai prénom, elle n'en veut vraiment pas à ses parents. Elle décrit comme une dangereuse provocatrice dans un dossier d'observation, comme on l'en faisait à l'époque. Elle entretient avec sa famille une relation à la fois douce et distante. Son père, modeste émigré italien des années 20, et sa mère, fille de bonne famille, rejetée par les siens après la disgrâce, forment un couple baroque, mais sont des parents bienveillants. Ils ne l'ont pas retenu lorsqu'elle a décidé à 15 ans de cesser ses études pour partir à Amsterdam, en plein mouvement Provo. Elle enfourchait sa mobilette, prit une petite tente et a quitté Bruxelles. Là-bas, elle a découvert la peur et l'espoir. La peur de la police, la peur du nucléaire, la peur du futur, la peur de soi-même aussi. L'espoir de la solidarité, le sexe et l'amour libre, les drogues, la danse, le chant et les luttes. Après l'autodissolution du mouvement, en 1967, Patsy rentre à Bruxelles, la tête pleine de rêves. Elle veut faire du théâtre pour changer le monde, travaille au Cirque Royal comme figurante. Elle s'inspire du bouddhisme et pense à la révolution. Elle milite pour les droits des femmes, pour la liberté sexuelle qui passe par une éducation précoce et l'accès à la contraception. Elle refuse la société de consommation et veut repeupler de vélos blancs en libre-service cette Bruxelles moderniste qui s'est ouvert les entrailles pour laisser passer trains et automobiles. Patsy vit seule dans un studio de la rue de la Poste, près de la gare du Nord. Ses parents, croyant bien faire, demandent à l'émanciper. À 17 ans, le juge alarmé leur refuse ce droit et ouvre une procédure pour mineurs en danger, en vertu de la loi de 1965. Elle est renvoyée en observation à Saint-Servais, institution où l'on pratique l'expertise médicale et psychologique près de Namur. Une amie de Bruxelles lui écrit « Quelle belle planète que les prisons qui croient sauver les jeunes !» en les mettant en boîte pour le vieux con qui lira cette lettre avant toi. En observation, Patricia noue des liens avec deux camarades. Voici Patsy, Cacao et Nicole, à trois. Elle suscite rapidement une révolte collective. Dehors, la colère de Maigronde et sonne le glas de l'arbitraire. Révolte sociale et sexuelle, Patsy dessine, se croque en hippie, dansant, flirtant, expérimentant de nouvelles drogues. La bande est devenue génération. C'est le temps des copains. Pour l'adolescente, la liberté est illusoire. La rébellion n'est pas un moyen, mais une fin. Elle danse sur le volcan sans plus se soucier de lendemain meilleur.
Gloria, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez-nous jusqu'au 12 mars chaque jour sur StudiosF91.1 ou à podcaster sur studiosf.fr. À très bientôt.